Nous chanterons le temps des cerises et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises sifflera bien mieux le merle moqueur.
Bonsoir, merci de nous retrouver à l'antenne de Radio Galère pour ce nouveau dossier de Comaguerre qui sera consacré aujourd'hui à, j'allais poser la question, jusqu'où iront-ils ou où s'arrêteront-ils ? Il s'agit de l'extension de l'OTAN, Organisation de traité de l'Atlantique Nord, qui est, vous le savez, une alliance militaire organisée par les États-Unis. Pourquoi ? Alors je remercie Sidi d'être à nouveau avec moi dans la cabine. On va passer un bon moment ensemble, c'est pas le seul, mais on en a déjà beaucoup passé. Et je pense que ça va mériter qu'on passe un certain temps, cette heure et demie qui est devant nous, pour expliquer ce qui s'est passé à un endroit dont on parle beaucoup moins, mais il s'est passé la même chose que ce qui s'est passé plus au nord du continent européen. Alors je rappelle, au nord du continent européen, c'est désormais clairement établi, et puis ça a été beaucoup rappelé à propos du conflit en Ukraine et des réactions de la Russie par rapport à l'approche de l'OTAN au plus près de ses frontières et à quelques minutes de tir de missiles de Moscou, la capitale. Et donc ça, c'est assez nettement établi et compris. Il y a une progression régulière par vague de l'OTAN de plus en plus vers l'Est qui commence dès le début de la réunification de l'Allemagne où là, c'est très très modeste puisqu'il s'agit juste d'intégrer ce qui était la RDA dans l'OTAN puisque la RDA a été absorbée par la RFA. Ça paraît anodin, c'est juste un petit mouvement de frontière vers l'Est, c'est pas grand-chose. Mais après, ça va continuer, et ça va continuer de façon très très régulière pour arriver bientôt au plus près des frontières de la Russie. Et la question se pose de savoir l'idée, le projet de faire rentrer l'Ukraine dans l'OTAN était acceptable ou n'était pas par la Russie. Il est clair maintenant, il est prouvé, démontré, quoi qu'on en pense, que la Russie n'acceptait pas que l'OTAN s'installe à transfrontière à travers une installation de l'OTAN en Ukraine. Bon. Mais parallèlement à ce mouvement qui est connu, compris maintenant, il y en a un deuxième qui a eu lieu et c'est ce deuxième mouvement que je vais consacrer cette émission, puisque dans le même temps où d'une façon assez visible, donc cette extension de l'OTAN par la Grande Plaine du Nord, la Grande Plaine qui va, disons, de Paris à Moscou sans beaucoup d'obstacles naturels, pas de grosses frontières, pas de grosses rivières et pas de chaînes de montagnes. Il y avait un autre passage possible, un peu plus compliqué, mais qui a aussi suscité beaucoup d'attention et beaucoup d'intervention du maître de l'OTAN et de ses amis. Et c'est de ce passage-là de l'OTAN par le Sud, et en particulier par les Balkans, que je vais essayer de vous parler. Parce qu'en fait, dans le même mouvement que l'OTAN a progressé dans la grande plaine du Nord européenne, l'OTAN a grignoté petit à petit. Ça a été un petit peu plus compliqué, c'est pour ça qu'on en a moins parlé, et on n'a surtout pas fait la synthèse. Autant dans le Nord, c'est facile, on avance toujours plus vers l'Est, on ajoute un pays, puis un autre, puis un autre, puis un autre, et puis on arrive quasiment, avec les pays baltes en particulier, à la frontière de la Fédération de Russie. Au niveau du Sud, ça a été plus compliqué. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un obstacle. Et c'est l'histoire de cet obstacle et de la destruction de cet obstacle que je vais essayer de faire devant vous. Cet obstacle, il s'appelait la Yougoslavie. Alors pourquoi cet obstacle était là ? Parce que la géographie politique, la géopolitique avait voulu qu'il en fût ainsi. Et je vais m'arrêter donc sur l'analyse de cet obstacle. Pourquoi il était là ? En quoi il consistait ? La Yougoslavie, vous le savez, c'est un pays neuf dans ses frontières telles que nous les avons connues jusqu'à la fin des années 90, c'est-à-dire un pays qui a été créé sur les ruines de deux empires, l'Empire ottoman d'un côté et l'Empire austro-hongrois de l'autre. Donc c'est un pays qui naît, comme d'autres à l'époque, de la redéfinition de l'ensemble des frontières sur le continent européen. Il n'existait pas avant, Et il naît là, puisqu'effectivement, ces deux empires étant défaits, ils laissent des morceaux de leur puissance et des territoires qu'ils contrôlaient aux mains des négociateurs des traités, donc Versailles et les suivants, et ces négociateurs vont dessiner de nouveaux pays. Au titre de ce dessin nouveau, il y a la Yougoslavie. La Yougoslavie, qui s'appelle d'ailleurs pas Yougoslavie à ce moment-là, elle s'appelle le royaume des Slovènes, des Croates et des Serbes. Alors pourquoi un royaume ? D'abord parce qu'il y a un roi, une dynastie qui s'installe à ce moment-là, et donc qui rassemble trois morceaux de cet élément sur lequel je vais m'apesantir. La Slovénie, donc la plus à l'ouest, la Croatie un peu plus à l'est, et la Serbie, donc la plus à l'est de cet ensemble. Et donc voilà le nouveau royaume qui est créé et qui va garder ce nom de royaume des Slovènes, des Serbes et des Croates jusqu'en 1928, si je ne me trompe pas, et qui va finir par s'appeler le royaume de la Yougoslavie. Alors Yougoslavie, qu'est-ce que ça veut dire ? On est dans le vif du sujet. Ça veut dire les Slaves du Sud, le pays des Slaves du Sud. Ce qui veut dire, vous l'avez compris, qu'il y a des Slaves du Nord. Alors, un tout petit mot là-dessus sur les Slaves. Les Slaves, c'est une population, disons, originaire de d'Asie, pas tout à fait, disons, très au nord de la Crimée actuelle et des parties sud de la Fédération de Russie, au centre, là, par là. Et donc, ces Slaves vont bouger, aller vers l'ouest dans un mouvement qui a été assez général sur le continent eurasiatique. Pensons au mouvement des Mongols, pensons au mouvement des Visigoths, des Ostrogoths, etc. Donc dans ce même mouvement, les Slaves vont bouger vers l'ouest et il y en a une partie qui vont aller vers le nord, qui seront donc les habitants futurs de la Pologne, de la Tchécoslovaquie, etc. Et puis d'autres qui vont aller un peu plus au sud et on va les retrouver dans cette Yougoslavie encore à construire, c'est-à-dire qu'on va trouver des Slaves d'origine venus donc de ce centre Europe de l'Est là-bas et qui vont s'établir donc en Slovénie, en Croatie et en Serbie. Et subsidiairement en Bosnie-Herzégovine, qui sera un cas supplémentaire, un petit morceau qui n'est pas dans le titre initial de la République, mais il est compris dedans, puisque la Bosnie-Herzégovine, telle qu'elle a été dessinée à ce moment-là, elle est coincée entre la Croatie et la Serbie. Nous voilà donc à la tête d'un pays nouveau, créé à la suite de modifications des tracés des empires. On a donc bien une redéfinition de la carte de ce morceau-là de l'Europe, redéfinition qui s'applique d'ailleurs à un endroit qui a été déjà assez secoué par le grand mouvement. Vous savez que dans les années 1848, on parle d'un grand mouvement d'émancipation des peuples, et il y a effectivement les premiers signes qui vont conduire à l'éclatement et de l'Empire austro-hongrois d'un côté et surtout de l'Empire ottoman de l'autre, c'est-à-dire ce printemps des peuples de 1848. Est porteur de transformation. Il va donner l'émancipation de la Grèce, il va donner toute une série de mouvements nationaux qui veulent sortir de la tutelle des empires, qu'on appelle des empires centraux, qui sont imposés à eux pendant des siècles. Nous voilà donc à la tête de ce nouveau pays qui essaye de trouver sa place dans le concert des nations. Alors, il est favorisé puisqu'en fait, c'est une création des vainqueurs de la Première Guerre mondiale. Et donc, a priori, il est bienvenu dans la communauté des nations. Et qu'est-ce qui va lui arriver ensuite ? Qu'est-ce qui va lui arriver ensuite ? Et c'est là-dessus que la chose devient intéressante. C'est que ce pays-là va subir, comme les autres de cette région-là du monde, l'agression nazie. Alors, il a su, parce qu'effectivement, l'agression nazie, elle a décidé, en particulier, vous le savez, et ça c'est parti, c'est écrit dans Mein Kampf, c'est-à-dire, il s'agit d'une agression raciste destinée à s'en prendre évidemment aux Juifs, aux Tziganes et aux Slaves. Alors, je mets les Slaves en dernier, mais il faut savoir qu'ils sont beaucoup plus nombreux que les autres, puisqu'il y a des Slaves depuis la Tchécoslovaquie, la Pologne, la Serbie, la Croatie, etc. Il y a des Slaves, il y en a tout le temps, il y en a partout. Donc, dans ces trois ennemis raciaux du régime nazi, il y a en nombre, d'abord les Juifs, en nombre plus petit les Juifs, ensuite les Tziganes et ensuite les Slaves. Et donc, un des objectifs de l'opération nazie, c'est-à-dire la conquête de l'Est par l'armée nazie, il y a bien la volonté de détruire les Slaves, ou au moins de les réduire en esclavage, ce qui serait un retour à la racine du nom, puisque Slave, ça viendrait, paraît-il, de la racine esclave, et d'en faire de toute façon des gens qu'on exploiterait et dont on pillerait les ressources. C'est-à-dire qu'on a bien, et ça sera confirmé par ailleurs, et même dans les écrits théoriques du Reich, il s'agit bien de augmenter l'espace vital, ce que les Allemands appellent et les nazis appellent le Lebensraum. On veut un espace vital. L'Allemagne, trop puissante et trop enserrée dans ses frontières, ne pouvant pas trop aller à l'ouest parce qu'elle a subi la défaite de 1918. Et donc, effectivement, elle passera son temps de 1918 à 1941, ou à 1939 si on préfère, à essayer d'aller prendre de la place, de l'espace, des richesses et d'exploiter et de mettre en esclavage ou en servage les populations slaves qui bordent le territoire allemand à l'est. C'est ce qui va se passer. Et donc la Yougoslavie, donc créée en 1918, ne va pas échapper à ce projet. Simplement, ce qui se passe, il se passe deux choses qui vont peser dans le reste de l'histoire de la Yougoslavie. Il se passe que, d'une part, il y a une partie de la Yougoslavie, je veux dire la partie la plus à l'ouest, qui va décider de se laisser faire par les nazis. Je veux parler de la Croatie. Et je veux parler un moindre degré de la Slovénie, parce que la Slovénie va assez vite s'accommoder d'être sous la botte italienne, donc la botte fasciste italienne. Elle sera un peu occupée par l'Allemagne, mais enfin, il n'y aura pas de difficulté pour l'Allemagne nazie et pour son allié fasciste italien de prendre le contrôle de la Slovénie, qui est un petit territoire avec une population d'1,5 million d'habitants. Ça ne posera pas beaucoup de problèmes, il n'y aura pas de combat. Là où ça devient très intéressant pour la suite de ce que je vais vous raconter, c'est que la Croatie non seulement ne refusera pas d'être envahie par les nazis, mais au contraire, elle les adoptera et elle les accueillera à bras ouverts. Alors je ne parle pas de tous les Croates qui sont à l'époque pas tout à fait 2 millions de Croates. Je ne parle pas de tous les Croates, mais il se trouve qu'il y a à l'époque à la tête de la Croatie un régime qui s'installe, qui accueille les nazis à bras ouverts et qui leur permet de s'installer chez eux sans combat. C'est-à-dire on n'est même pas dans la situation de la France qui a mené une petite guerre assez étrange, la campagne de France, je ne reviens pas là-dessus. Là, on n'a même pas ça. C'est-à-dire que l'ennemi nazi n'est pas un ennemi, il est accueilli à bras ouverts par un régime nazi de cœur, bon, qui est dirigé par un monsieur dont on cite le nom, qui s'appelle Ante Pavelić, et qui a en plus un soutien de l'Église catholique. Ça, c'est un thème sur lequel je vais un peu m'apesantir. Et donc, en fait, on a l'Église catholique qui est très dominante en Croatie, la direction politique, donc Pavelić, des Oustachis, comme on les appelle, des Oustachis croates, qui sont favorables et qui accueillent donc le régime nazi et l'armée nazie d'occupation à bras ouverts. Et donc là, il n'y a pas de conflit du tout. C'est-à-dire qu'il y a une partie de cette Yougoslavie qui tombe directement dans l'escarcelle nazie parce qu'elle s'y trouve très très bien. Plus les Croates d'ailleurs que les Slovènes, j'insiste là-dessus. Les autres, ce n'est pas tout à fait pareil. C'est même loin d'être pareil, puisque en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va susciter l'arrivée des nazis donc aux frontières de ce qui reste du royaume de Yougoslavie, c'est-à-dire à la frontière entre la Croatie et la Bosnie-Herzégovine, en gros, pour dire comme selon les frontières d'aujourd'hui. Ce qui va se passer, c'est un soulèvement populaire double. Alors un soulèvement populaire double sur lequel il faut bien être précis, c'est-à-dire qu'il y a dans la Yougoslavie, pour ce qu'il en reste, une fois partie la Croatie, pour ce qu'il en reste, il y a un double soulèvement que j'allais dire, pour simplifier, royaliste, traditionnaliste, qui veut que la monarchie yougoslave poursuive sa vie et qui accepte pas l'invasion nazie. Donc ça, c'est le courant qui sera mené par un dirigeant qui s'appelle Mihailović. Et puis, il y a un autre soulèvement qui est, lui, mené par des communistes, à la tête desquels on va retrouver un personnage qui est connu, c'est Joseph Broz Tito, qui est lui-même un croate. Mais donc, en fait, la réaction à l'invasion possible, enfin, la tentative d'invasion de la Yougoslavie par les nazis, il y a une double opposition militaire. Et cette opposition réussit très largement. C'est-à-dire que ce qu'on appelle les partisans du côté des communistes et l'armée donc de Mihailović vont s'opposer militairement avec succès à l'avancée des nazis sur leur territoire. Et ils vont pratiquement empêcher l'avancée des nazis sur leur territoire. Et donc là, on a un phénomène très très particulier qui est que, à l'inverse de ce qui s'est passé dans ce que j'appelle la zone nord, la zone slave nord, où effectivement, là, les régimes soit se sont alignés, je pense à des régimes qui ont carrément, je pense à la Slovaquie, qui se sont alignés sur le Reich, qui sont passés dans la scarcelle des nazis sans combat. Il n'y a pas de résistance d'un parti bourgeois qui maintiendrait le pouvoir. Le parti royal, défendu par la guérilla de Mihailovic, et les partisans communistes décident que l'armée du Reich ne pénétrera pas sur le sol. Et effectivement, elle aura beaucoup de peine pour dire que l'armée nazie n'a pas réussi à conquérir la Yougoslavie. Ce qu'il en restait une fois que la Croatie était perdue et la Slovénie était perdue. Ça, c'est un point d'histoire très très important. Et à la différence de ce qui s'est passé donc dans le nord de l'Europe au moment où l'URSS contre-attaque et commence à reprendre le terrain qu'elle avait laissé, donc d'abord sur son propre territoire à partir de Stalingrad et ensuite dans l'Europe de l'Est pour remonter jusqu'à Berlin progressivement, en passant donc par la Pologne, la Tchécoslovaquie, et tout ça est très très connu. Ce qui s'est passé, c'est que l'armée rouge interviendra très très peu et in fine, car en fait, il faut reconnaître ça puisque c'est l'histoire, c'est Belgrade qui est la grande ville la plus à l'est du territoire de la Yougoslavie qui sera libérée par l'armée rouge après que tout le reste du territoire l'ait été par les deux guérillas, les deux régimes de résistance armée qui s'organisent sur tout le reste du territoire de la République yougoslave. De ce qui n'est pas la République, pardon, je dis la République, du royaume de Yougoslavie tel qu'il était avant la guerre. Et donc, il sort de ça. Alors, il sort de ça deux choses. D'une part, la Russie, l'URSS a très peu joué et elle est venue tout à fait à la fin. On peut dire qu'en gros, la Yougoslavie s'est libérée toute seule. Et ce qui se passe en plus, c'est très important, c'est que de ces deux mouvements armés, il y en a un qui, au lieu de s'allier avec l'autre, va combattre l'autre et l'éliminer. Ça, c'est un élément aussi qui est pour nous très, très étonnant par rapport à ce qu'on a connu dans la résistance française. C'est-à-dire que les deux morceaux armés de la résistance à l'invasion nazie de la Yougoslavie ne sont pas d'accord, ne s'entendent pas, n'ont pas d'accord politique entre eux. Et c'est les partisans communistes qui vont éliminer et battre militairement l'autre partie armée de la résistance à l'occupation nazie. Et donc, ce qui arrive, in fine, au moment où la guerre se termine en 1945, c'est qu'on a en fait un pays qui a été à 95% pour la partie qui n'était pas occupée avec bienveillance, donc la Croatie et la Slovénie, un pays qui a été libéré très très largement par ses propres moyens, et dont le Parti communiste yougoslave est le seul maître. Ça aussi, c'est très différent de la situation française ou de la situation italienne, où les communistes font partie d'une alliance de classe qui va arriver au pouvoir et puis qui ensuite sera écartée. Les communistes seront écartés du pouvoir. Ça, je ne reviens pas sur cette histoire-là. Là, on est dans une situation complètement différente où les communistes arrivent seuls au pouvoir en 1945 en Yougoslavie et à Belgrade. À partir de ça, effectivement, on est dans une situation très très nouvelle qui ne se retrouve pas dans les autres pays de l'Europe de l'Est, pour faire simple, qui est très spécifique et qui va amener une histoire tout à fait particulière de cette Yougoslavie dans les années qui vont suivre. Et je m'explique un petit peu. Qu'est-ce qui se passe donc à ce moment-là? Ben effectivement, les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale regardent la situation. Et vous savez que dès 1945, dès les accords de Potsdam, en gros, peut-être un petit peu avant, il est entendu qu'il y a une partie de l'Europe qui va rester sous influence soviétique, mais pas trop. Et puis, il y a l'autre partie qui va rester sous influence occidentale. Et on parle beaucoup du partage de Yalta, en particulier, qui fait tomber la Grèce du mauvais côté du point de vue des communistes grecs, c'est-à-dire du côté de l'Occident. Et pour les Balkans, il y a un vrai problème, c'est-à-dire qu'à un endroit où, normalement, c'est l'Occident qui devrait rester le maître de la situation, on a là ce pays étrange, particulier, qui s'est libéré quasiment tout seul et qui ne veut pas tomber sous la tutelle des vainqueurs, pas plus qu'il a voulu tomber sous la tutelle du Reich nazi et des fascistes italiens. Là, c'est une vraie question qui va obnubiler pratiquement pendant 50 ans, pas tout à fait, pendant 40 ans, les décideurs de la politique impérialiste à Washington. Que faire de cet objet étrange qui est là, à un endroit qui est manifestement dans l'Europe, qui a une histoire très particulière, que les États-Unis ont contribué à créer, donc ça c'est les traités, c'est Wilson en 1918, et qui en fait n'obéit pas, n'est pas dans la ligne puisqu'il est dirigé par des communistes. Et ça, c'est inacceptable. C'est-à-dire que dans d'autres pays qui ont été libérés par l'armée soviétique, il s'installe, comme je pense à Prague, des régimes mixtes avec des communistes au gouvernement, mais d'autres. Là, non, il n'y en a pas. Il n'y a que des communistes qui gouvernent à Belgrade. C'est bien, bien embêtant. Mais ce qu'il faut voir, et ça c'est très, très important pour la compréhension des choses, c'est que pour les populations de Yougoslavie, y compris d'ailleurs les Croates, car j'ai dit les Croates, la direction croate avait trempé dans le régime nazi, elle y était favorable et elle s'était comportée de façon épouvantable pendant cette guerre, c'est-à-dire comme une annexe avec les pires méthodes des nazis appliquées en particulier aux Serbes qui combattaient pour la libération et l'autonomie et l'indépendance de la Yougoslavie. Mais à part donc cette Croatie, et même il y a en Croatie des gens qui en 1945 disent « mais c'est très bien, on veut être du côté de la Yougoslavie communiste indépendante. Il y a des communistes croates. » Et Tito, je le rappelle, est croate, en plus lui-même. Bon, ce qui facilite l'assimilation, disons, des Croates. Et donc, il faut savoir que la direction fasciste Ustachi s'est enfuie. Palevich part par des circuits qui sont connus maintenant, part en Amérique latine. Tout ça se sait. Le cardinal Stepinac, je ne sais pas s'il était évêque ou cardinal, mais l'évêque Stepinac, qui avait été donc le complice catholique du régime nazi de Palevich, essaye aussi d'échapper. Et donc, tout ça fait que de 45, disons, à 48, on a une espèce de moment béni de cette Yougoslavie communiste nouvelle où toutes les zones de la Yougoslavie, quelles qu'elles aient été leurs différences historiques, se sont rassemblées derrière le pouvoir des partisans et de la Ligue des communistes yougoslaves. Ça, c'est une donnée très, très importante. Mais vous imaginez bien, parce que c'est peu de dire quand on connaît l'expérience française et la façon dont les ministres communistes ont été mis à la porte du gouverneur, vous imaginez bien que ça empêche tous les Occidentaux et tous les dirigeants des États-Unis et de la Grande-Bretagne aussi de dormir. Que faire avec ce régime ? On ne sait pas. En fait, ce régime lui-même va prendre un cours assez particulier puisqu'il considère au fond que dans les partages des zones d'influence et dans ce qui a été le théâtre de la guerre froide telle qu'elle est organisée à partir de 1945, la Yougoslavie était plutôt destinée à tomber dans l'influence occidentale. Et dans la mesure où Tito et la Yougoslavie ne veulent pas, ça va conduire à une crise, c'est-à-dire à une opposition entre la direction yougoslave, le parti des communistes yougoslaves et Tito, et Staline, l'URSS. C'est-à-dire que concrètement, très clairement du point de vue de la géopolitique, la Yougoslavie communiste refuse le partage de Yalta. Elle refuse d'être classée dans le camp de l'Ouest. Et rien ne l'amène à avoir un avis différent, puisqu'en fait, c'est un parti communiste qui ne veut pas dépendre des occupants, éventuels occupants anglo-saxons. Ça, c'est très, très fort et c'est un mouvement tout à fait important dans l'histoire du continent européen, c'est-à-dire qu'il y a un petit pays, c'est 20 millions d'habitants, c'est rien du tout, qui est donc dans la zone considérée comme l'orbite de l'OTAN, et l'OTAN qui est à cours de création à ce moment-là, et qui refuse d'y rentrer et qui ne veut pas. Et comme, effectivement, ils s'aperçoivent que pour l'URSS, ce partage qui a eu lieu parce que c'était la façon d'aboutir à la fin de la guerre et de liquider le Reich, ne les satisfait pas, bon, la crise s'ouvre, c'est-à-dire il y a une rupture qui est historiquement un moment extrêmement fort. C'est un pays communiste qui rompt avec l'URSS, c'est-à-dire qui rompt avec le pays qui est considéré par l'ensemble des autres partis communistes, en particulier les partis communistes européens, comme ayant été le libérateur de tout le monde. Et les communistes yougoslaves disent non, non, nous, on n'a pas été libérés par vous, on n'a pas eu à composer avec la bourgeoisie nationale réhabilitée, non, on est les maîtres et on ne veut pas être dans ce camp-là. Ça, c'est une logique qui va durer et qui mérite d'être bien comprise. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? C'est la fâcherie, et donc effectivement, tout ce qui pouvait être des rapports de bonne intelligence avec l'URSS, malgré tout, des genres aides économiques, etc., tombe à l'eau, il n'y a plus aucun rapport possible, et donc la Yougoslavie doit se débrouiller tout seule. Elle est face à un monde nouveau dans lequel sa place n'a pas été prévue. Et c'est toute l'intelligence, je le dis, c'est toute l'intelligence de la direction yougoslave d'avoir profité, enfin d'avoir compris la situation telle qu'elle était, la situation globale politique telle qu'elle était à ce moment-là. Qu'est-ce que va faire la Yougoslavie ? Elle va dire effectivement, je m'aperçois, et elle ne va pas trouver toute seule, mais je m'aperçois que ce que la Deuxième Guerre mondiale a engendré, c'est l'existence et l'émergence de toute une série de pays qui étaient colonisés. Ce qui n'était pas le cas de la Yougoslavie, puisque le royaume de Yougoslavie était indépendant. Bon, les pays qui étaient colonisés et qui se sont décolonisés et qui sont en train de créer un monde nouveau. Rappelons qu'effectivement, quand en 1948, la Yougoslavie rompt avec l'URSS, on a déjà l'Inde qui est indépendante depuis l'année dernière, l'Indonésie qui est indépendante depuis 1945... La Chine qui n'est pas tout à fait libérée, mais en 1948, c'est pas très très loin, c'est-à-dire que ce sera l'année d'après que la Chine se libérera de la tutelle états-unienne après avoir éliminé le Japon en 1945. Tout ça fait que le monde a totalement changé, c'est-à-dire qu'il y a en particulier une partie de l'Asie et ce qui va devenir ensuite une partie de l'Afrique qui est en train de s'émanciper. Et donc, quelle va être l'intelligence politique de la direction yougoslave ? Ça va être dire, ah, mais c'est dans ce monde-là qu'il faut que nous prenions notre place. Un monde qui refuse ces deux blocs, qui refuse la guerre froide, qui refuse que ce soit même un parti communiste bien installé et méritant. Il n'est pas question de dire que l'URSS n'a rien fait et jamais les Yougoslaves n'ont dit ça. Simplement, les Yougoslaves disent, nous nous sommes libérés nous-mêmes, nous avons une autre vision du monde que l'URSS, nous ne voulons pas jouer dans la guerre froide, qui est une chose qu'il faudrait dépasser, et donc on va trouver d'autres alliances. Et ils vont les trouver. Ils vont les trouver puisque, effectivement, se tient en 1955 un événement à Bandung, donc, qui est la deuxième ville la plus importante, ou une station climatique, disons, proche de Jakarta en Indonésie, une conférence qui lance le concept même de tiers-monde, c'est-à-dire qui est un rassemblement de ces pays donc nouvellement décolonisés qui décident de se tenir à l'écart de la guerre froide et qui décident de favoriser tous les autres pays qui voudraient aussi se libérer encore de la tutelle coloniale. Alors il en reste encore en 1955, vous imaginez qu'il y a encore à faire, par exemple sur le continent africain, où là on a juste les débuts d'émancipation ici ou là de quelques pays, je pense au protectorat en France, de la France sur le Maroc, la Tunisie qui sont vacillants, l'Algérie c'est pas du tout réglé, donc on a en fait les prémices d'une émancipation de ce qu'on appellera le tiers-monde qui se font. Et qu'est-ce que fait à ce moment-là la Yougoslavie ? Elle dit « mais c'est là que je dois trouver ma place ». Parmi les pays qui s'émancipent du joug des grandes puissances et qui veulent sortir du système de guerre froide et qui ne veulent pas rentrer dans ce débat « je suis avec l'un ou je suis avec l'autre ». C'est très fort du point de vue politique. Et ce que fait Tito, donc ce que fait la Yougoslavie, puisque à l'époque on l'identifie beaucoup à Tito, qui est un personnage de poids, donc que fait la Yougoslavie ? Elle dit et elle invite en 1956, donc l'année d'après, elle tire les enseignements de Bandung où elle n'était pas invitée, puisque Bandung c'est une réunion des pays du tiers-monde, enfin des pays de l'Asie et de l'Afrique en particulier, qui décident de s'organiser entre eux pour échapper au joug colonial. Il faut savoir que Bandung n'est pas organisé par la Chine, mais Bandung, Chou Enlai, le premier ministre chinois, y est très présent. Et le mouvement donc du tiers-monde et le mouvement d'émancipation du tiers-monde, le mouvement de non-alignement dont je vais reparler un peu plus loin, sera toujours, toujours suivi et appuyé par la Chine populaire. Et ça pèlera de lourd dans l'évolution de l'histoire de ce mouvement-là. Donc, qu'est-ce que fait la Yougoslavie ? À Brioni, donc, qui est une petite île yougoslave sur la mer Adriatique, elle réunit un sommet où elle invite les principaux protagonistes de Bandung, pas tous d'ailleurs, mais elle en invite un certain nombre qui viennent. Et elle dit, voilà, ben, il faut absolument qu'on poursuive cette idée d'émancipation du tiers-monde, j'appelle ça tiers-monde. Nous considérons, nous, Yougoslaves, que nous en faisons partie, très clairement, parce qu'on refuse la logique des blocs, on refuse d'être soumise à la diktat et à la gouverne de l'URSS, on refuse d'être soumis encore plus aux nazis et à leurs héritiers qui restent encore vivants ici et là, il y en a toujours, mais qui sont un peu discrets à cette époque-là de l'histoire, et donc on met ça sur pied. Et ça va donner lieu, alors ça ne mûrit pas tout de suite, hein, ça se passe en 1956, ça va donner lieu à la conférence de Belgrade qui a lieu en 1961. Et le fait que ce soit à Belgrade, c'est particulièrement fort et significatif. Où vont être invités, alors je vous donnais la liste des noms, mais c'est très très important de le savoir, c'est-à-dire vont être invités à Belgrade pour ce sommet qui sera le premier sommet, le vrai sommet du tiers-monde. Je vous donne la liste. Alors, ça se passe au mois de septembre 1961. Je vais vous donner la liste des pays pour que vous mesuriez l'ampleur du choc géopolitique que ça peut produire à la fois à Moscou, mais peut-être de moindre façon, mais surtout à Washington. C'est-à-dire Washington qui dit, moi, je veux gouverner le monde, je suis la puissance la plus forte économiquement, je veux gouverner le monde et je ferai tout ce qu'il faut pour tout gouverner, pour tout contrôler, y compris en détruisant autant que possible l'URSS si j'y arrive. Et donc là, on a toute une série de pays qui disent, non, mais ça nous intéresse pas, on ne veut pas de la tutelle de Washington, qui est toujours prêt à prendre quelqu'un en esclavage, et par contre, on ne veut pas pour autant tomber dans les bras des soviétiques. Alors, je vous donne la liste parce qu'elle est très, très intéressante. Le premier, je les donne dans l'ordre alphabétique. À Belgrade, on va retrouver l'Afghanistan, qui n'est pas du tout entre les mains de talibans, qui n'existe pas. Le gouvernement provisoire de la République algérienne, on est en pleine révolution algérienne, donc guerre d'indépendance, et on est en 1961, un gouvernement provisoire de la République algérienne qui est tout près d'acquérir la victoire et donc d'obtenir l'indépendance de l'Algérie. On a ensuite l'Arabie saoudite, c'est assez étonnant. On a la Birmanie, on a le Cambodge, on a Ceylan, on a Chypre, on a Cuba, qui vient de faire sa révolution deux ans avant. On a l'Éthiopie. Alors c'est un sommet assez extraordinaire. Vous allez avoir l'empereur d'Éthiopie, Haïlé Sélassié, qui vient à Belgrade pour participer à un mouvement général d'émancipation de ce qu'il faut bien appeler le tiers-monde. On a là le Ghana. On a la Guinée. Alors la Guinée, on sait les aventures qui lui sont arrivées pour échapper à la colonisation française. On a l'Égypte avec Nasser, qui est au sommet de sa gloire à l'époque. On a l'Inde avec Nehru qui est là. On a l'Indonésie avec Sukarno. On a l'Irak, on est en 61, c'est-à-dire que les généraux, en particulier les généraux communistes irakiens, ont fait sauter la monarchie en 1958. Ils sont là. On a le Liban, on a le Mali de Modibo Keïta. On a le Maroc d'Hassan II. Alors c'est assez étonnant de voir des enregistrements, des actualités filmées de Belgrade dans ces journées du mois de septembre 1961, où on voit un roi Hassan II, tout jeune, qui est là et qui, d'une certaine façon, participe à l'émancipation du tiers-monde. Alors le Maroc vient d'être libéré du protectorat français et il est en train de prendre une place. Alors il a beaucoup changé depuis, n'épiloguons pas. On a là le Népal, on a la Somalie, on a le Soudan, on a la Tunisie, c'est la Sunniti de Bourguiba, on a le Yémen Sud, et enfin on a la Yougoslavie. C'est-à-dire que, alors vous avez entendu la liste, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun pays d'Europe, mis à part la Yougoslavie. C'est-à-dire que la Yougoslavie prend une position absolument extraordinaire par rapport au contexte de l'époque, 61, on est en pleine guerre froide. Et donc il y a une ouverture vers un nouveau système de relations internationales qui va déboucher ensuite sur le mouvement des Nolali. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à ce moment-là, pour les stratèges de Washington qui sont déjà, qui ont pleine conscience de ce qu'ils veulent faire, c'est-à-dire gagner la guerre froide, hein, en 61, la décision est déjà prise. On va éviter la guerre nucléaire avec Cuba, mais gagner la guerre froide, ça veut dire progresser sur le terrain européen. Et donc là, on a cette Yougoslavie qui est un verrou. Et ce qui va se passer à partir de ce moment-là, c'est que tout va être fait pour que ce verrou saute. Mais ça mettra longtemps. Parce qu'en fait, la Yougoslavie, dans cette situation un peu particulière, même très très particulière, va quand même renouer en 1955 avec l'URSS, du temps de Khrouchtchev, va un peu assouplir ses relations avec les uns et les autres. Elle va tenir sa position de pays donc très très indépendant sur le continent européen, en gardant tous ses liens avec, que ce soit les Cubains, les Indiens, les Égyptiens, etc., avec tout ce monde qui bouge, qui n'arrête pas de bouger, et qui n'arrêtera pas de bouger avant le milieu des années 70, puisqu'on peut considérer que ce mouvement d'émancipation du tiers-monde commence à reculer ou à être bloqué par la réaction impérialiste à partir du milieu des années 70. J'ai l'habitude de dater ça du coup d'État de Pinochet, c'est un peu simplificateur parce que ça, le basculement ne se fait pas juste le 11 septembre 1973, mais c'est autour de ce moment-là qu'on voit bien que la période d'émancipation des anciens pays colonisés ou de ceux qui, comme Belgrade, la Yougoslavie, ne veulent pas être à nouveau sous tutelle d'un régime étranger, c'est à ce moment-là que ça commence à craquer un petit peu et où effectivement l'impérialisme fait un retour en force. Pour autant, la Yougoslavie va durer. Alors la Yougoslavie va durer, elle va un peu assouplir son régime interne, c'est-à-dire le gouvernement va donner de plus en plus de liberté, d'autonomie aux différentes provinces, aux différents membres de la fédération, c'est-à-dire qu'ils soient slovènes, croates, bosniaques, etc. Va introduire des complexifications de type ethnico, en particulier, j'insiste là-dessus, parce que c'est une invention de cette période-là, c'est-à-dire inventer l'idée d'une nation musulmane au sein de la Bosnie-Herzégovine, qui est un concept extrêmement difficile à manipuler parce que l'islam c'est pas une nation, l'islam c'est une croyance et donc bien qu'il y ait effectivement des pratiquants de la religion musulmane sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine, ce sont évidemment des Slaves parlant serbo-croate qui ont été convertis à l'islam du temps de l'Empire ottoman. Enfin, leurs ancêtres ont été convertis et ils le sont restés dans leur pratique. Bon. Alors, fabriquer avec ça en disant la Bosnie-Herzégovine s'est constituée de trois ethnies, une ethnie croate, parce qu'il y a des croates, une ethnie serbe qui sont très largement majoritaires sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine et une ethnie musulmane, c'est se livrer à une élucubration ethno-religieuse, culturelle et tout, qui est explosive et dangereuse. Mais ça s'est fait. Ça fait partie peut-être des moments d'affaiblissement d'affaiblissement de la structure yougoslave, c'est-à-dire que Tito est vieillissant, les circonstances globales de l'économie internationale se modifient et donc il se crée là un certain nombre d'abcès futurs dont on verra le développement et la croissance un peu plus tard. Nous revoilà donc à ce moment particulier, la Yougoslavie s'affaiblit un petit peu, les provinces fédérées s'écartent les unes des autres, chacune mène un peu sa trajectoire, il y en a qui sont plus développées que l'autre, on considère que les deux plus riches économiquement sont la Slovénie et la Croatie, la Serbie un peu moins, et puis qu'il y a des zones beaucoup moins riches et beaucoup moins prospères qui sont en particulier en Bosnie-Herzégovine, au Monténégro, etc. Donc il y a quand même dans cette fédération pas mal d'inégalités numériques d'abord, parce qu'il y a des groupes, les Monténégrins, ils sont 600 000, effectivement ils ne pèsent pas beaucoup dans la fédération, alors que les Serbes sont 8 millions répartis dans différents morceaux, d'ailleurs pas qu'en Serbie, il y en a un peu partout, on y reviendra. Et donc on a un pays qui s'affaiblit, mais qui n'est pas en mauvaise santé en même temps. Alors il va composer un peu, avoir pas mal de vie économique et d'échanges avec les pays d'Occident. Et puis il lance une espèce de projet économico-social qu'on appelle le projet autogestionnaire, c'est-à-dire donner beaucoup de liberté aux entreprises et dans la foulée, parallèlement, donner beaucoup de liberté aux États membres de la fédération. Ça va donner donc un pouvoir central relativement affaibli, mais un style socialiste, parce que là, il se revendique toujours du socialisme en tant que propriété collective des moyens de production, mais avec un État relativement plus faible, puisqu'en fait, chacune des provinces a un peu sa marge de manœuvre, et les entreprises elles-mêmes, autogérées, donc avec des collectifs de travailleurs, sont une marge de manœuvre, et donc il n'y a pas d'obéissance, il n'y a pas comme dans la planification soviétique, un planificateur qui décide de ceci ou de cela, donc ça va introduire des concurrences, des inégalités entre les différents morceaux de la Yougoslavie. C'est un pays un peu très très particulier. Mais qui va tenir, même au-delà, après la mort de Tito, donc qui a lieu en 1980, l'ensemble tient, bon an, mal an, l'ensemble tient. Il est certain qu'à l'intérieur de cet ensemble, déjà, on est en train de se préparer à la suite. Alors, parce qu'il existait en Croatie, en Slovénie en particulier, des gens qui trouvaient que c'était bien beau la Yougoslavie, mais qu'enfin, ils auraient été peut-être plus heureux s'ils avaient été dans l'Europe en cours de constitution, etc. Bon, il y avait des tentations, surtout du côté de ce côté-là, du côté de l'Ouest. Mais va arriver la rupture et la cassure, c'est pas du tout en Yougoslavie qu'elle a lieu, c'est à Berlin, c'est en Allemagne, c'est-à-dire qu'on a la cassure, c'est-à-dire on a la fin de la guerre froide, donc le mur de Berlin qui craque en 1989, et un an après, en gros, la République fédérale qui absorbe la République démocratique allemande, donc l'unification allemande. Et là, on sait que tout va basculer, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, effectivement, il y a, alors, et ça, la conclusion, ce n'est pas moi qui la tire, c'est un certain George H.W. Bush, donc le père, qui dit, on est fin 89 en gros, qui dit « Maintenant les affaires sont claires, nous avons gagné, ils ont perdu ». Et ça, on n'a pas voulu l'entendre, et beaucoup de commentateurs politiques, beaucoup de chefs d'État, je pense à François Mitterrand, ont fait comme si c'était juste, bon, il y a l'Allemagne est réunifiée, les Allemands sont contents et tout, mais c'est tout, ça ne change rien à l'équilibre des forces, etc. Si, ça change considérablement, puisque à partir de ce moment-là, dans la tête des dirigeants des États-Unis, donc le père Bush d'abord, et ensuite celui qui va lui succéder, qui s'appelle Bill Clinton, il est très clair que l'OTAN va pouvoir grandir et que l'emprise des États-Unis sur le continent européen et l'emprise en direction de la Russie va augmenter de plus en plus. Puisqu'en même temps que l'Allemagne est réunifiée, vous savez, dans le même temps, enfin, dans la même période, l'URSS s'est dissoute dans un accord assez étrange entre trois personnes qui décident tout seuls, cachées dans un bois, de la dissoudre. Bon, ça, peu importe, c'est pas le but de l'émission. Mais ce qui se passe, c'est qu'effectivement, Bush a très bien résumé la situation. Nous avons gagné, et donc désormais, nous faisons ce que nous voulons, et ce que nous voulons, c'est continuer à grignoter de l'espace, prendre le contrôle total de l'Europe, et se rapprocher le plus possible de la Fédération russe, puisque c'est ça qui reste de l'immense URSS, et qui sait, alors c'est pas affiché comme ça, mais qui sait grignoter, alors c'est un gros morceau, mais mettre la main sur cet énorme morceau, puisqu'au fond, et ça ils ont bien compris, parce que ça c'est de la géoéconomie élémentaire, que peu importe à la limite le régime politique qui dirige Moscou, le problème c'est que un territoire comme celui de la Fédération russe, qui fait deux fois la superficie des États-Unis, qui est riche en tout, qui est riche en terres agricoles, qui est riche en énergie, en gaz, en pétrole, en minerais de toutes sortes, en espace, en eau, etc., c'est un concurrent insupportable du point de vue de la géoéconomie, quelle que soit son idéologie politique. Alors, du temps de l'URSS, il y avait l'opposition politique qui s'ajoutait à ça. Mais de toute façon, ce concept du pays trop gros, trop grand, trop puissant, enfin, ayant de telles ressources, est insupportable pour les États-Unis qui se considèrent, c'est à peu près vrai en termes de kilomètres carrés, parce que ça, la Chine, le Canada et les États-Unis tournent autour de 8 millions de kilomètres carrés, et c'est beaucoup moins que l'URSS, que la Fédération de Russie, 17 millions de kilomètres carrés. Donc ça reste en tête. C'est écrit d'ailleurs chez un certain nombre de théoriciens. C'est écrit dans ce qu'on appelle le programme Wolfowitz, qui sera repris par le programme un nouveau siècle américain, c'est-à-dire que désormais, il faut s'en prendre, enfin, il faut avoir comme objectif de affaiblir la Russie et pourquoi pas la faire exploser. Pour ça, il faut que l'OTAN progresse, il faut que l'outil militaire suive. Donc il a progressé, c'est-à-dire que dès que l'Allemagne a été réunifiée, on s'est occupé de faire venir les pays donc plus voisins de la Russie, de les faire venir dans la famille. Pas tout de suite, on prend son temps, parce qu'on ne rentre pas dans l'OTAN en 5 minutes, et puis on fait connaissance avec les nouvelles équipes, on met en place toute une série de stratégies. Mais toujours est-il que c'est bien ça l'idée. Et puis cette libération des esprits et des ambitions et des pouvoirs locaux a un écho évidemment dans la Yougoslavie. C'est-à-dire que dès le mois de juin 1991, on a deux morceaux de la Fédération yougoslave, à savoir ce que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire les morceaux les plus à l'ouest, la Slovénie, et la Croatie, la Slovénie qui est déjà le plus développée industriellement et le plus proche, disons, géographiquement et même dans son esprit de l'Union européenne, de l'Europe qui est en train de se construire, déclare leur indépendance, c'est-à-dire font sécession de la Fédération yougoslave. Alors les réactions sont particulières, c'est-à-dire ne sont pas les mêmes. Par rapport à la Slovénie, il y a un court conflit militaire, c'est-à-dire que là, il reste, puisqu'il y a la Fédération yougoslave avait une armée, donc il y a un conflit entre des milices qui ont été fabriquées en Slovénie très très vite et donc l'armée fédérale yougoslave, mais qui dure une dizaine de jours, dans laquelle l'armée yougoslave ne se bat pas beaucoup, et donc finalement, il y a un armistice, et puis la Slovénie prend de facto son indépendance. Ce qui était acquis est très probable, puisque la Slovénie, je la situe, elle est un peu particulière dans cette fédération yougoslave, puisque les Slovènes, j'insiste sur leur nom, qu'est-ce que c'est qu'un Slovène ? Ben, c'est un Slave mélangé de Vénitiens. C'est-à-dire c'est à cheval entre le monde slave et le monde italien. On est tout près de Trieste, etc. On est de la frontière orientale de l'Italie. Et donc, ils ne sont déjà pas tout à fait comme les autres. On y parle, c'est vrai, une langue qui ressemble, mais qui n'est pas le serbo-croate, qui ressemble, alors elle fait partie des langues slaves, mais elle est quand même assez différente pour au moins 30 ou 40% de son vocabulaire. Et donc, c'est un élément qui part très facilement et il n'y aura pas de difficulté. Et il n'y aura pas de difficulté pour ensuite intégrer la Slovénie très vite dans l'Union européenne et l'intégrer un peu plus tard dans l'OTAN. Ce sera fait en 2004. Le cas de la Croatie est beaucoup plus compliqué. Le cas de la Croatie est beaucoup plus compliqué puisque la Croatie déclare son indépendance, mais là, c'est un gros morceau qui risque de s'en aller. Et puis, c'est un gros morceau qui risque de s'en aller sous la pression d'éléments qui sont très, très mal vus à Belgrade et par les Serbes en particulier, puisqu'en fait, à cette occasion, refont surface tous les mauvais esprits et toutes les mauvaises pensées de la Croatie fasciste qui n'est pas morte. C'est-à-dire elle a laissé des traces, il y a des héritiers, il y a des gens qui ont un esprit de revanche, etc. Et donc il va falloir qu'il y ait une intervention pour aider cette Croatie à passer le cap de l'indépendance par rapport à la Fédération de Yougoslavie. Et là se situe un épisode qui est tout à fait intéressant à comprendre, c'est que la Croatie va être aidée dans son indépendance, donc dans sa rupture forte avec la Fédération yougoslave, par deux entités politiques. La première, c'est la République fédérale allemande, donc l'Allemagne réunifiée, agrandie. Et c'est donc Helmut Kohl, le chancelier de l'époque, qui va aider par tous les moyens possibles, financiers, militaires, diplomatiques et tout, la Croatie à devenir indépendante et à devenir donc de fait une alliée de l'Allemagne. Bon. Et puis le deuxième allié, qui est moins connu mais sur lequel il faut insister, c'est le Vatican. C'est le Vatican, puisque à l'époque, la Croatie, on le sait, est catholique et donc le Vatican va mettre en œuvre toutes ses ressources qui sont quelquefois financières, mais de toute façon toutes ces ressources idéologiques, pour favoriser le passage de la Croatie dans le camp catholique définitif bien organisé. Là, ça rappelle, alors, je cite parce qu'on ne peut pas évoquer ce type de situation sans évoquer les travaux remarquables d'Annie Lacroix-Ry, de notre amie Annie Lacroix-Ry, dans son livre qui s'appelle « Le Vatican, l'Europe et le Reich », c'est-à-dire l'étroitesse des relations entre les nazis, le Vatican, sont avérées depuis très, très longtemps, et ces travaux l'ont démontré largement. Et donc, en fait, le Vatican va jouer de toute son influence pour dire « ces catholiques, je les veux, hein, ils sont tout à fait content de revenir chez nous. Et ça se passe comme ça. Alors pourquoi ça marche? Alors il faut bien voir que ça marche sur le fait que ça, ce conflit entre les catholiques croates et les orthodoxes serbes a une profondeur historique énorme. Parce que c'est pas, ça n'a pas commencé du temps des Oustachis. C'est-à-dire que la rupture entre le catholicisme et l'orthodoxie, donc portée à l'époque par l'empereur byzantin, a lieu non pas dans les années ou les décennies qui précèdent l'indépendance de la Croatie et la rupture de la Yougoslavie, elle a lieu quasiment 1000 ans plus tôt. Alors écoutez bien ceci, parce que c'est un élément d'histoire qui pèse extraordinairement lourd. Quand en 1054, il y a un désaccord entre deux chefs d'église qui sont l'un un patriarche orthodoxe qui siège à Constantinople et de l'autre un pape qui siège à Rome mais qui n'est pas encore très très costaud et qui n'a pas l'emprise, enfin qui n'a pas la maîtrise de la situation et qui a beaucoup travaillé avec Charlemagne, le Saint-Empire romain germanique et tout, il y a une rupture qui est définitive, c'est-à-dire qu'on a deux ennemis idéologiques qui, au nom du même christianisme, vont passer leur temps à s'affronter. Et ce temps-là n'est pas terminé. Alors, il n'est pas terminé en 1940, quand commence la guerre, puisque, en fait, il va y avoir en Croatie des gens du côté donc, du catholicisme et du côté du Vatican qui favorisent, enfin, qui laissent faire le nazisme. Ça, c'est tout à fait clair et établi. Et puis, on va le retrouver, y compris en 1991, où le Vatican, pour garder ses fidèles croates, va jouer complètement contre les Serbes orthodoxes. C'est-à-dire que cette coupure, le schisme de 1054 produit encore des effets en 1991. Alors ça, pour nous, pour un Français normalement constitué, j'allais dire, c'est quelque chose d'absolument stupéfiant. C'est-à-dire qu'une coupure comme ça entre deux branches, enfin deux rameaux, au départ la même religion, arrive à s'exclure l'un de l'autre et arrive à... Alors ça a une traduction, j'allais dire, c'est une traduction géographique très très importante. C'est-à-dire qu'il faut savoir que l'Europe chrétienne, puisqu'on nous rappelle toujours les oreilles avec l'Europe chrétienne, vous savez, Bruxelles et tout, machin chose, la 9e symphonie, tout ça, cette Europe chrétienne, en fait, c'est une Europe qui est coupée en deux depuis le schisme de 1054. Coupée en deux, puisqu'il y a plutôt à l'ouest des catholiques, prenons le cas des Polonais, il n'y a pas que les Croates, les Polonais, il y a plutôt à l'est des orthodoxes, en Russie par exemple, en Ukraine par exemple, et en Serbie par exemple. Et donc cette coupure-là, qui date donc d'un millénaire, cette coupure-là existe encore et elle pèse. Elle pèse. Alors il y a peut-être encore des croyants manifestement des deux côtés. Il y a des intérêts matériels, économiques qui se cachent derrière ça. Mais cet outil, cet instrument de division des peuples européens est un instrument qui sert encore 1000 ans plus tard. Alors ça, c'est compliqué. Alors je le cite pour la petite histoire. Enfin, c'est pas la petite, c'est d'ailleurs la grande. Après le schisme de 1054, il se passe un autre événement. Alors ce schisme qui précède de peu la première croisade. Alors, c'est assez intéressant à noter parce que la première croisade, c'est destiné, alors c'est les catholiques donc, du côté ouest européen qui décident d'aller reprendre le contrôle des lieux saints qui ont été occupés par les Arabes après 700. Bon. Alors ça, il arrive à la première croisade, je rappelle. Vous savez, c'est pas le sujet de l'émission. La première croisade se passe, alors on passe par l'Empire byzantin, hein, puisqu'on est quand même entre chrétiens. Hein, on passe par l'Empire byzantin, malgré le schisme, on passe par là. Ça se passe plus ou moins bien, mais effectivement, la première croisade aboutit, et d'une certaine façon, du point de vue militaire, la croisade est un certain succès, puisqu'effectivement, les croisés arrivent à Jérusalem. Ce qui était le but de la croisade. Bon. Mais ça va beaucoup se gâcher, je finis là-dessus, sur la question des rapports entre l'orthodoxie et le christianisme, pour rappeler qu'à une des croisades suivantes, on est en 1200 et des poussières, les croisés d'Europe de l'Ouest, les croisés catholiques, qui sont, alors c'est un mélange de chevaliers, de petites noblesses et de morts de faim, j'allais dire, ou de gens qui disent « Ah ben on va aller à la croisade, on va se remplir les poches, on va un peu piller ici et là et tout ». Et en fait, il se trouve que le premier pillage qui a lieu, parce qu'il mérite d'être fait, c'est-à-dire qu'ils arrivent à Constantinople, et ils trouvent que c'est tellement beau Constantinople, tellement riche et tout, qu'une partie de ces morts de faim, de ces combattants catholiques laïque, pas trop convaincu par la religion, mais qui ont le sens de leurs affaires, va piller Constantinople. C'est-à-dire, Constantinople est mise à sac, Constantinople, donc terre chrétienne orthodoxe, est mise à sac par des chrétiens catholiques. Ça, c'est une rupture très très forte qui va d'ailleurs affaiblir durablement l'Empire byzantin, qui survivra encore deux siècles, mais qui aura été beaucoup, beaucoup marqué par ça. Bon. Cette coupure, alors qu'on ne sent pas quand on vit en France, bon, on sait qu'il y a des paroisses orthodoxes, mais on ne la sent pas parce qu'à aucun moment, il n'y a pas assez d'orthodoxes sur le territoire de la République française, à aucun moment on a senti que c'était un facteur de division. Par contre, vous pouvez imaginer que les gens qui, au Vatican, les gens qui en Allemagne, l'Allemagne qui a aussi réglé un problème comme elle a pu de religion, mais elle l'a fait d'une question de façon particulière parce que l'Allemagne s'est coupée, elle est encore à peu près entre moitié catholique et moitié protestant. Alors je ne sais pas quel est le niveau de la pratique, mais en fait toujours est-il que vous savez qu'en Allemagne, quand vous déclarez vos impôts, vous pouvez en donner une partie à une des deux églises, enfin, ou une église protestante ou à l'église catholique. Et donc ces deux églises ont des ressources considérables et l'intervention de Kohl en particulier en faveur de la Croatie se fera avec les fonds de ces églises-là. C'est-à-dire que l'intervention de la République fédérale allemande et du Vatican est une intervention non seulement politique, idéologique, mais aussi financière, parce qu'il y a des moyens des deux côtés. Les catholiques allemands sont riches, très riches. Enfin, l'Église catholique allemande est très riche. Donc elle peut aider un pays qui veut se manifester en tant que nouveau bastion du catholicisme dans ces terres où il a pu être menacé par le communisme athée. Je fais le commentaire comme ça pour bien faire comprendre ce dont il s'agit. Bon. Ça, c'est un premier facteur. Et vous imaginez qu'à Washington comme à Berlin, on sait, alors à Berlin surtout, on connaît la musique et on sait très bien que c'est là-dessus qu'il va jouer. Et à Rome, au Vatican, on le connaît très très bien aussi. Et donc, à Washington, on en est à dire, ben c'est très bien, ils sont en train de faire le travail que nous souhaitons, c'est-à-dire de faire rentrer une partie donc, de la Yougoslavie dans le camp occidental, dans le camp catholique, etc. Et c'est très bien. Et ça justifie une position qui sera celle de Bush aussi, qui à un moment donné dit « il ne faut pas que nous intervenions en direct dans ces endroits-là, il faut que nous laissions faire le travail ». Et il parle, alors il a une expression, c'est « partenaire dans la domination ». C'est-à-dire, il dit à Kohl, et Kohl comprend très très bien le message, « nous sommes partenaires dans la domination, mais pour l'instant, occupez-vous de la question yougoslave, je compte les points derrière ». Je vous dis comment il faut y aller, allez-y, vous faites le travail pour moi, vous le faites très bien, vous connaissez mieux le terrain que moi, et vous avez les moyens financiers de le faire, tout ça est très bien. Ceci étant, je surveille de très très près la mécanique, et il y a un certain Kissinger qui a fait des observations là-dessus en disant, il y avait en Yougoslavie de quoi fomenter suffisamment de guerre, il suffisait de bien connaître les mécanismes. Kissinger, qui était un dangereux public, mais était un personnage cultivé. Voilà. Alors, je crois qu'on avait convenu avec Sidi qu'on faisait passer un peu de musique. On va faire passer une petite chanson qui est une chanson du mouvement des partisans, donc de la guérilla, la guerre armée des partisans yougoslaves, au moment donc de la Deuxième Guerre mondiale et de la libération de la Yougoslavie par les partisans yougoslaves.
Papa.
c'était juste pour avoir un petit souvenir de la lutte des partisans yougoslaves pour libérer leur pays de l'invasion nazie. J'en reviens donc, on se retrouve donc dans ce début de la décennie 90, donc avec l'URSS qui a disparu, une Russie en pleine crise économique, sociale, morale, politique, enfin tout y est, une Russie qui est passée très près de l'effondrement, bon, qui en est sortie maintenant manifestement, mais on pouvait, dans les années 93-94, s'interroger sur la capacité de survie même de cet État russe, qui est dans l'État où il se trouvait. Bon. Il a survécu. C'est un autre sujet. Mais côté yougoslave, donc les deux morceaux de l'Ouest sont partis. Dans le même temps, donc c'est toujours en 91, la Macédoine donc décide de son indépendance. Là, ça pose moins de problèmes. Il n'y a pas de conflit armé. D'autant plus que la Macédoine, c'est déjà un mélange de Bulgares, d'Albanais. D'abord, c'est pas très très important en superficie, en population, 1,5 million d'habitants. Bon, ça se passe. Bon, il n'y a pas de conflit. Le conflit va se centrer sur la Bosnie-Herzégovine, parce que là, c'est très compliqué. Et c'est là que va jouer à plein le facteur musulman. C'est-à-dire que les Occidentaux, car ça, tout ça ne se fait pas par hasard, puisque ce que je vous disais, l'intervention de l'Allemagne est constante, l'intervention de l'Europe indirectement, même si l'Allemagne est très très directement leader dans ces opérations-là. Souvenez-vous de la phrase que j'ai dit, c'est-à-dire que nous sommes partenaires dans la domination. C'est-à-dire que les États-Unis ont confié à l'Allemagne le sort de l'Europe de l'Est, Balkans compris, Yougoslavie compris. La France, les autres doivent suivre, du moins, s'ils sont contents ou pas contents, mais enfin, c'est comme ça que ça se passe, et c'est bien comme ça que ça a été vécu, et même il y a certains moments, un certain nombre de responsables français qui l'ont reconnu. C'est-à-dire que c'est l'Allemagne qui faisait la pluie et le beau temps sur le terrain yougoslave. Bon. Là, on se trouve avec cette équation très compliquée, avec donc ce quotient musulman qui est là particulièrement développé. Et puis, on va sélectionner, il va sortir, disons, alors qui les a sélectionnés, bon, j'ai une idée, mais enfin, ils se sont présentés au bon moment pour les intérêts à la fois américains et les intérêts européens, donc les intérêts de l'OTAN, un leader croate fascisant, Tudjman, et un leader musulman fascisant aussi, Izetbegovic. Alors, si je dis ça, c'est pas pour faire une caricature, c'est-à-dire qu'on va voir donc monter deux composantes de la société de Bosnie-Herzégovine, la composante donc musulmane, et dont je rappelle ce qu'ils sont, hein, donc des slaves convertis, enfin dont les ancêtres ont été convertis à l'islam, et puis la composante croate, qui vont oser, je le cite parce qu'il faut bien comprendre ce que ça voulait dire, que quand sur des monuments, sur des boutiques, vous voyez interdit aux juifs, interdit aux tziganes, interdit aux serbes et aux chiens, ça vous rappelle quelque chose, c'est-à-dire c'est l'horreur du racisme à sa forme la plus élaborée. C'est-à-dire on est en plein dans le discours, c'est à la fois Mein Kampf et c'est le discours des Japonais envahissant le Japon, la Chine. Hein. Je répète, c'était écrit, on le retrouve, il y a des tas de témoignages là-dessus, interdit aux Juifs, interdit aux Tziganes, interdit aux Serbes et aux chiens. Donc ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, à partir du moment où vous avez deux leaders, et les gens qui peuvent recruter, et les moyens financiers qui arrivent pour organiser des milices à leur solde, il y a une possibilité de passer à des horreurs comme on en a vu pendant la Deuxième Guerre mondiale, aussi bien du côté de la guerre du Pacifique avec les exactions japonaises, que du côté des nazis, du côté européen. Tout y est. Et ça sera même pire, puisque en fait, il va y avoir, par exemple, des camps de concentration organisés qui seront des camps de fait d'extermination du fait de l'absence de nourriture, l'absence de protection, de rien du tout, hein, l'absence de vêtements, qui seront encore plus à ciel ouvert que les camps d'extermination allemands qui avaient la particularité d'être à des endroits cachés où si on ne voulait pas les voir, on les voyait. Là, ce n'est pas du tout le cas. La Croatie va fabriquer des camps de concentration, d'extermination de Serbes, à Jasenovac en particulier, où vont passer plusieurs dizaines de milliers de Serbes qui seront éliminés comme ça, au vu et au su de tout le monde, en pleine campagne. Bon. C'est ça qui se passe. C'est ça que... on n'a pas voulu nous faire comprendre, c'est-à-dire on a dit, il y a des méchants qui sont les Serbes, et puis il y a des braves gens qui veulent leur autonomie, mais ces braves gens étaient des gens qui ne voulaient pas de Juifs, pas de Tziganes, et pas de Serbes, et pas de... Voilà. Bon. Alors, à ce moment-là, quand vous dites, ah ben oui, mais les Croates et les musulmans de Bosnie-Herzégovine, ils parlent le serbo-croate, ils ont été élevés là, ils se connaissent, ils se fréquentent depuis longtemps. Vous voyez à quel niveau de haine on peut porter des populations quand il y a de l'extérieur des tireurs de ficelles qui veulent faire exploser la marmite. Et je vous l'ai dit, à propos du conflit entre les catholiques et les orthodoxes, toutes les conditions sont réunies pour que la marmite explose, pour peu qu'on mette le feu dessous. Car il faut qu'il y ait un feu dessous, un feu d'argent, un feu de propagande. Et le feu de propagande va être exemplaire, comme il y en a. Enfin, on a maintenant d'autres exemples, mais on a fait. L'OTAN et l'Occident ont fait la démonstration sur le conflit de Bosnie-Herzégovine d'un niveau de mise à feu de la propagande la plus malhonnête, la plus honteuse, la plus caricaturale qui ait été développée jusqu'à présent. Aujourd'hui, je pense qu'on en a encore les effets. Et il faut savoir, par exemple, que carrément. Et ça a été connu par un livre d'un journaliste français qui en a beaucoup souffert après. Il y a un cabinet de relations publiques états-unien qui est chargé de fabriquer les messages grand public pour que l'opinion occidentale considère qu'il y a de braves garçons qui sont les fascistes de Tudjman et de Izetbegovic et il y a des salopards, hein, appelons ça le mot, des bandits, des tortionnaires, tout ce qu'on veut, qui sont les Serbes. C'est-à-dire fabriquer les bons du côté où c'est discutable, et les mauvais, de toute façon, les Serbes ont tous les torts. Voilà, c'est ça qui va être fabriqué par une agence de presse et qui va réussir, alors elle le dit elle-même et elle s'en vante, le coup fabuleux de faire tomber l'opinion juive du côté des fascistes, qui eux-mêmes sont capables d'écrire sur le terrain « mort aux juifs hein ». Bon, mais ça, c'est fabuleux. Donc la capacité de manipulation médiatique organisée par cette agence de relations publiques états-unien est fabuleuse. Et elle dit elle-même, et son dirigeant qui a été interviewé, reconnaît qu'il a marqué là un point extraordinaire, c'est-à-dire à partir du moment où l'ensemble des médias, et là parle le lobby sioniste, qui est fort, on le sait, dans les médias, dit que les Croates et les musulmans sont des bons et que les Serbes sont des mauvais, l'opinion occidentale bascule et il n'y a plus rien à espérer. Alors il n'y a plus rien. Il y avait un peu à espérer. Alors il y a des gens qui ont essayé, je cite, parce qu'il mérite de l'être, le journaliste qui s'appelait monsieur, qui s'appelle encore monsieur, je crois qu'il n'est pas décédé, monsieur Jacques Merlino. Et qu'est-ce qu'il dit? Alors il est quand même, à l'époque, il est rédacteur, il est directeur à France Inter. Et donc il va faire un livre qu'il publie en octobre 93, je crois, qui s'appelle « Toutes les vérités yougoslaves ne sont pas bonnes à dire ». C'est-à-dire que lui qui est sur place va observer ce qui se passe et va dire ce schéma donc fabriqué par une agence de relations publiques. Donc cette mystification énorme qui est fabriquée ne correspond pas à la réalité que je vois moi sur le terrain, puisqu'il est envoyé spécial de sa radio sur place. Il faut savoir qu'il va perdre son poste et il va, à un moment donné, son livre ne sera jamais réédité et il va même, à un moment donné, considérer qu'il ne faut plus qu'il parle. Il va dire « je refuse toute interview » et on lui a mené une vie infernale. C'est-à-dire, il a été celui qui a dit la vérité et comme on dit la chanson de Guy Béard, le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. Enfin, Jacques Merlino n'a pas été exécuté, il a été exécuté professionnellement. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas que ce genre de voix soit entendu. Et c'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe. Et donc, la victoire du camp de Tudjman et de Izetbegovic est totale. Mais on en arrive sur une situation qui est incroyable. C'est-à-dire que malgré tout, les Serbes qui habitent en Croatie, puisqu'il y en avait beaucoup, hein, il y en avait beaucoup de Serbes, ils n'étaient pas tous dans la province qui s'appelait la Serbie, créent une république serbe, mais qui n'a pas le droit d'être dans la Serbie, qui s'appelle aujourd'hui encore la Republika Srpska, la république serbe dans la Bosnie-Herzégovine. Et cet État qui ne marche pas va être obligé de fonctionner et sa constitution va être établie dans un camp militaire américain à Dayton dans l'Ohio où les dirigeants des différents, et Milosevic compris, et les dirigeants de ces différents groupes, donc Tudjman, Izetbegovic et je ne sais pas si Karadzic y était, mais sont enfermés dans un camp militaire américain et on leur dit « vous ne sortirez de ce camp militaire, ils sont en prison, ils sont en prison ». On dit « vous ne sortirez de là ». Que si vous signez le projet de constitution que nous, États-Unis, avons rédigé. Alors c'est bien là qu'on voit que là c'est un vrai basculement, on est en 95, c'est-à-dire que c'est plus du tout Kohl qui tire les ficelles pour le compte des États-Unis. Ça, il l'a fait au début. Là, c'est les États-Unis qui ont repris directement la situation en main et qui disent maintenant, on organise ce qu'on veut et c'est nous qui sommes les maîtres du jeu. C'est ça le tournant. Bon. Qui est très très important pour la suite des événements, parce que ce qui se passe à ce moment-là, c'est que les Croates, encouragés par cette position des États-Unis, qu'ils ont très très bien compris, puisqu'ils sont favorables en fait, vont en même temps profiter de la situation pour chasser les 300 ou 400 000 Serbes qui existent encore, qui vivent depuis très très longtemps d'ailleurs, sur le territoire de la Croatie, je ne parle pas de la Bosnie-Herzégovine, hein. Ils vont les pousser dehors, de force, et s'ils résistent, ils en mourront, et donc on va avoir un exode massif des Serbes qui habitaient depuis des temps très très éloignés en Croatie, qui vont être rejetés, qui vont se retrouver de facto citoyens de cette nouvelle république serbe, la Republika Srpska, à l'intérieur de la Bosnie-Herzégovine. Tout ça, c'est du 95. Tout ça, donc, c'est de l'épuration ethnique. C'est-à-dire que les Croates disent, nous ne voulons pas qu'il y ait un seul Serbe sur le territoire de la Croatie. Tout ça se fait entre des gens qui se connaissent, qui vivent là depuis des décennies, qui parlent la même langue. Ça n'empêche pas. Quand l'extérieur et l'impérialisme a décidé de mettre le feu, il met le feu aussi longtemps et aussi fort qu'il le veut. C'est ça la leçon. Bon. Ça va avoir des suites, ça va avoir des suites très très concrètes. Très très concrète, puisqu'une fois que la Bosnie-Herzégovine a été fabriquée, elle a été fabriquée d'ailleurs de façon tellement autoritaire et de façon tellement stupide qu'elle ne fonctionne toujours pas. Aujourd'hui, la Bosnie-Herzégovine, c'est un État qui est sous contrôle de l'ONU via l'Union européenne, qui n'a pas de capacité à fonctionner, puisque de toute façon, entre les deux morceaux, le morceau croato-musulman s'entend pas bien et le morceau de la République serbe s'entend pas du tout. Alors, il y a formellement une espèce de présidente tournante de la Bosnie-Herzégovine. En fait, c'est un État qui n'est pas viable. On a fabriqué un monstre pas viable, un État qui n'existe pas et donc le seul avenir de sa population, c'est de s'en aller, en fait, c'est tout. On a fait un trou dans la Yougoslavie telle qu'elle était, un trou épouvantable où les gens se sont entretués ou qu'on a fait s'entretuer avec de gros moyens et surtout avec un énorme lavage de cerveau international qui a fait que tout était possible. Je vais citer un cas pour bien montrer à quel niveau se situait la propagande, qui est le cas du marché de Sarajevo, vous en avez peut-être entendu parler. Un beau matin, alors il y a un marché dans le centre de Sarajevo qui est très très fréquenté, et on dit qu'il y a tout d'un coup 100 ou 200 morts, c'est-à-dire qu'on dit les Serbes, les snipers serbes, donc des Serbes qui seraient sur les collines entourant Sarajevo, auraient tiré sur le marché pour tuer des Croates, pour tuer des musulmans. Donc ça rentre tout à fait dans la campagne d'opinion qui est destinée à être, qui est préparée par l'agence de relations publiques dont je vous ai fait part. Bon. Et en fait, les témoins qui sont sur place disent, mais en fait, non, non. Et les témoins qui peuvent être des gens qui étaient là, des gens qui regardent les photos, des gens qui ne sont pas morts, parce qu'il y avait la queue au marché, disent, mais on ne comprend pas, parce que, et les observateurs un peu astucieux disent, mais on ne comprend pas, parce qu'il y a un tir de mortier, donc on a un obus ou des obus qui arrivent par les airs et qui tombent sur des gens. Donc a priori, ça leur tombe dessus, ils ont la tête écrasée, ils ont le corps qui gonfle un petit morceau, et en fait on s'aperçoit que la quasi-totalité des morts et des blessés ne sont blessés qu'aux jambes et au bassin. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a jamais eu de tir de sniper serbe, il y a eu un minage du marché, et donc les gens qui sont morts dans le marché sont entrés dans une rue qui avait été minée au préalable, et il y a quelqu'un qui a mis à feu les mines, et donc ça a détonné, et ils se sont trouvés sans jambes. C'est ça, c'est un cas sur lequel je m'arrête pour montrer à quel niveau de mensonge et de fabrication on était arrivé, mais les gens qui, comme ce que je viens de vous dire, disaient, mais ça tient pas debout, puisqu'en fait, quand on reçoit un obus sur la tête, on n'a pas d'abord mal aux pieds. Bon, on n'a pas d'abord les jambes qui partent une à droite, une à gauche. Bon, ces gens-là, on ne les écoutait pas. Et même, on les considérait simplement comme des pro-serbes, des malhonnêtes. Voilà. Ça a été ça, la guerre en Bosnie-Herzégovine. Je ne m'arrêterai pas sur l'histoire de Srebrenica, parce que ce serait trop long. Mais enfin, sachez simplement qu'il a été reproché aux Serbes d'avoir tué 8000 musulmans dans l'enclave de Srebrenica. Rien n'a été établi. Et le seul témoin à charge qui aurait pu parler était un malade mental qui a été reconnu comme tel par le tribunal pénal pour la Yougoslavie. Un malade mental qui était passé successivement dans les milices croates, dans les milices musulmanes et dans les milices serbes et qui a été considéré par le tribunal comme un incapable, c'est-à-dire un malade mental pour lequel auquel on ne pouvait accorder aucune confiance. Bon, il y a eu beaucoup de choses dites là-dessus, beaucoup de choses connues. La fabrication du mythe de Srebrenica a été une des réussites de la propagande occidentale pour dire que les Serbes avaient éliminé 8000 combattants musulmans. C'est pas vrai, c'est simplement pas vrai. Et d'ailleurs, on n'arrivera pas à le prouver le contraire, parce que maintenant le tribunal pénal pour la Yougoslavie a été clos. Donc l'affaire est entendue. Ceci étant, on a maintenant les moyens de savoir, quand on veut savoir, ce qui s'est passé. Bon, j'en arrive, je regarde l'heure tranquillement pour dire, on arrive à la fin, on arrive au début de la décennie 2000 où donc Clinton a totalement rempli le contrat, c'est-à-dire que la Yougoslavie est éclatée en plusieurs morceaux, des morceaux qui sont passés dans le camp occidental, un morceau qui a été fabriqué et qui est une espèce d'échec politique total, la Bosnie-Herzégovine, et puis une Serbie de plus en plus repliée sur elle-même, étroite, à qui on a fait très très mal, puisque tout ça se termine quand même en 99, je le rappelle, par une guerre de 77 jours, soit presque 80 jours, c'est-à-dire des bombardements massifs de la Serbie, de ses villes, de ses usines, de ses entrepôts, de ses ponts, de la télévision et en plus de l'ambassade de Chine à Belgrade. Donc une entreprise de démolition de la Serbie alors qu'on lui fait porter la responsabilité de tout ce qui s'est passé, alors que tout ce qui s'est passé a été orchestré par d'autres. Il s'agissait donc de terminer en clouant au sol la Serbie et de dire que c'était Milosevic qui était responsable de tout ce qui s'était passé depuis là, puisque c'était lui le chef d'État à un moment donné avant que la présidence ne devienne tournante. Et donc, à partir de ce moment-là, on finira par attraper Milosevic et par essayer de le juger dans ce tribunal dont, je souligne, le tribunal pénal international pour la Yougoslavie, ça a été reconnu par ses organisateurs, est un tribunal financé par l'OTAN. C'est-à-dire que l'OTAN, plutôt que... Alors, on est tout à fait dans la logique de la Cour pénale internationale imaginée aussi par Clinton à la même période, c'est-à-dire que autant éviter les combats contre un ennemi qui militairement est de toute façon beaucoup plus faible, le mieux c'est de faire une guerre d'opinion et de dire, voyez, on a enlevé un chef d'État parce que de toute façon c'était un voyou. Hein, il avait commis des crimes contre l'humanité, tout, c'est très... On se débarrasse de Milosevic comme ça. Alors ils n'ont pas réussi, enfin ils n'ont pas réussi à se débarrasser de Milosevic. Ils l'ont attrapé, ils ont tenté de le juger, il a organisé sa défense lui-même. Et à un moment donné, il était cardiaque, on a refusé de le soigner et il est mort en prison. Je rappelle que ce jour-là, enfin à ce moment-là, la Russie a dit « je le prends chez moi, je le soigne, je vous le renvoie ». Personne n'a voulu écouter ça, on l'a laissé Milosevic mourir. Comme ça, on ne peut même pas dire qu'on l'a condamné puisqu'il est mort en prison par manque de soins du tribunal pénal international de l'OTAN. C'est comme ça la justice fabriquée par les vainqueurs, surtout celle-là qui depuis est dissoute. Je pourrais parler longuement de cette justice internationale, mais on est au début des années 2000, ça y est, le terrain est dégagé, c'est-à-dire la Yougoslavie a explosé en autant de petits morceaux, et maintenant la construction du nouvel ordre international va se faire à partir de ces petits morceaux. Là, on a eu une décennie de changements, de guerres, de conflits, etc. À partir de 2000, c'est terminé. Milosevic est en prison. On met à la place des dirigeants un peu plus souples qui sont à la tête de petits pays, qui ont beaucoup souffert, qui voient qu'ils sont menacés par des adversaires beaucoup plus forts, beaucoup plus manipulateurs, ayant de l'argent et tout, avec une Russie qui n'a pas le temps de s'intéresser à eux parce qu'elle a elle-même trop souffert. Et donc, on se laisse faire ici et là, plus ou moins bien, plus ou moins bien. Bon. Mais ça n'a pas d'importance pour l'Empire et pour les impérialistes. Ce qui compte, c'est d'engranger maintenant les succès politiques. C'est-à-dire que devant cette espèce de mosaïque d'États, des États, le plus gros a 6 millions d'habitants, c'est-à-dire c'est rien du tout, c'est des tout petits États qui ont beaucoup souffert, il y a eu la guerre chez eux, etc. Bon, donc dans cette mosaïque, on va, d'où les équipes politiques dirigeantes sont un peu inquiètes de ce qui peut leur arriver si elles n'obéissent pas au patron, donc on va petit à petit faire rentrer ces morceaux de la Yougoslavie dans le dispositif otanien. Ça se passe assez vite. Alors, le dispositif otanien, il a d'abord... Bon, il y a le, je parlais de la réunification allemande, ça c'est 90. Et puis, ils vont rentrer en mars 99. Je note la date parce que mars 99, c'est quelques mois, deux mois avant le début de l'attaque de l'OTAN, qui n'a pas été, bien entendu, approuvée par le Conseil de sécurité de l'ONU, donc de l'attaque par les États-Unis et par l'OTAN de la Serbie. Rentre donc dans l'OTAN, en mars 99, la République tchèque, la Hongrie, la Pologne. Voilà, ça, alors on a déjà, en particulier juste à la frontière donc nord de la Serbie, des officiers américains en Hongrie par exemple, qui peuvent suivre le déroulement des combats et participer à la guerre qui est en cours. Alors le gros des opérations aériennes, c'est plutôt fait depuis l'Italie, mais c'était possible, enfin, avec un militaire américain installé à Budapest, on pouvait avoir un bon suivi de la situation et aussi éviter que la Serbie se répandent de l'autre côté de la frontière sur la Hongrie. Ça, c'était le problème. Ensuite, le marché otanien va continuer. On arrive en 2004, et là vont rentrer dans l'OTAN la Bulgarie, les trois républiques baltes, donc Estonie, Lettonie, Lituanie, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie. Ça y est, voilà, on a déjà une première entrée dans l'OTAN. Alors, ça s'est fait assez facilement parce que la Slovénie était déjà rentrée dans l'Union européenne. Ça ne posait pas trop de problèmes. Je vous ai déjà dit que c'était la République yougoslave la plus susceptible d'une rentrée sans difficulté dans le cadre européen. Elle était en partie autrichienne. Elle avait subi des influences catholiques importantes, etc. Bon, aucun problème. Donc déjà, 2004, premier succès otanien en Yougoslavie. On a le premier état de l'ex-Yougoslavie. La vie qui est dans l'OTAN. Plus un. Hein, je fais le compte côté Balkans et côté Yougoslavie. On arrive au 1er avril 2019 où y rentre la Croatie. Ça a été un petit peu plus long. Et la Croatie rentre en même temps que l'Albanie, dont je n'ai pas parlé, parce que ce serait toute une autre histoire. Mais l'Albanie, qui à un moment donné, dans les années euphoriques de l'après-guerre mondiale, a trouvé de bonnes relations avec la Yougoslavie, et puis qu'après ils se sont fâchés, puis l'Albanie a une trajectoire très très compliquée qui mériterait à elle seule une émission. Mais elle est passée carrément dans le camp occidental très vite après la chute du régime communiste d'Enver Hoxha. Et donc l'Albanie et la Croatie rentrent ensemble au mois d'avril 2009. Et puis, ils rentrent en 2017. Vous voyez que ce n'est pas fini. L'OTAN continue son marché. Ils rentrent en 2017 le Monténégro. Alors, pourquoi le Monténégro tout seul? Il faut savoir que le Monténégro était dans la Serbie. Même à la fin, quand la Bosnie-Herzégovine est séparée, la Croatie est partie, la Slovénie est partie, la Macédoine est partie, mais le Monténégro fait encore partie de la Serbie, à laquelle il donne d'ailleurs une ouverture sur la mer Adriatique, ce qui est important du point de vue militaire et stratégique. Bon, le Monténégro, petit pays, 600 000 habitants, très particulier, enfin une géographie compliquée, mais est ceci qu'il est dirigé depuis l'origine de l'indépendance de Monténégro, donc la séparation avec la Serbie, par un monsieur qui est connu comme étant un des principaux trafiquants de cigarettes sur le continent européen. Mais ce n'est pas très grave, puisque vous savez que du côté albanais, et en particulier du côté du Kosovo, dont je n'ai pas parlé, c'est un peu la même chose. C'est d'autres trafic de drogue, trafic d'organes humains, trafic de traite des blanches, etc. Bon. Et puis, qui va rentrer en mars 2020 ? La Macédoine. Alors, la Macédoine, parce qu'il y a eu un problème, parce que les Grecs ne voulaient pas que la Macédoine rentre, parce que la Macédoine, jusqu'à 2019, s'appelait l'ancienne République fédérale yougoslave de Macédoine. Et ça, ça faisait pas joli, et les Grecs acceptaient pas que ce qui a été le berceau de la famille de Philippe et d'Alexandre le Grand, son fils, ils acceptaient pas que ce soit un morceau d'une République fédérale yougoslave. Bon. Donc, la Macédoine est rentrée. Donc, faites les comptes, sont rentrés dans l'OTAN la Macédoine, le Monténégro, la Croatie, la Slovénie, j'allais dire, c'est le carton plein, le marché est fait, il ne manque que cette Bosnie-Herzégovine dont on ne sait pas quoi faire parce que c'est un système tellement compliqué, tellement mal fichu que la Bosnie-Herzégovine n'a pas d'avenir. On en est où aujourd'hui? Alors je regarde l'heure, on en est où aujourd'hui? On a ça, c'est-à-dire l'OTAN a avancé autant qu'elle a pu, elle a donc pris pratiquement les 4/5 de l'ex-Yougoslavie. Reste la Serbie. Alors, la Serbie est choyée, courtisée, mais effectivement, la Serbie est en train quand même de se réveiller un petit peu, de se rendre compte. Et puis, l'évolution de la situation internationale fait que les prises de conscience sont de plus en plus importantes. Même chose par rapport au Monténégro, où les dernières élections ont mis en paix, enfin, même fait chuter le dictateur trafiquant. Donc là aussi, on a une évolution, c'est-à-dire il y a une prise de distance des populations par rapport à ce schéma, c'est-à-dire les États-Unis arrivent, l'Union européenne arrive, l'un mélangé avec l'autre à des moments différents, mais peu importe, c'est la même équipe, c'est la même politique, etc. Et donc, on a un réveil des populations. Et on a un réveil, y compris au Kosovo, puisque je finirai là-dessus. Vous savez que ce Kosovo qui pose beaucoup de problèmes et qui a donc été fabriqué, puisque la justification de la guerre contre la Serbie et des bombardements de la Serbie, c'est que la Serbie maltraitait les habitants du Kosovo, en majorité albanophones. Bon. Effectivement, ils étaient peut-être très maltraités, mais ils étaient très très nombreux. Simplement, on a installé à la tête de la province, donc de cette province de la Serbie, qui n'est pas un État reconnu par les Nations Unies, j'insiste là-dessus, le Kosovo n'est pas reconnu, simplement on n'y touche pas parce que d'une part, là, il y a à sa tête un certain nombre de voyous, mais quand un de ces voyous, je pense à un des dirigeants, est menacé d'être convoqué au tribunal pénal international, tous les témoins à charge qu'il y avait, que le tribunal avait retenu contre lui, sont assassinés. Donc le tribunal se dit, c'est pas la peine que j'essaye des procès. Si les témoins à charge que j'ai sélectionnés sont tous assassinés, je ne pourrai rien démontrer. Voilà comment fonctionne la justice, la soi-disant justice otanesque. Puis je le rappelle, le tribunal pénal pour la Yougoslavie, est un tribunal financé et organisé par l'OTAN. Donc ce qui est important à voir, c'est que jusqu'à pratiquement il y a 2 ans, et la situation géopolitique évolue du fait de ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, jusqu'à il y a 2 ans, il était acquis que les États-Unis grignotaient petitement et l'OTAN allait progresser. Bon, le refus clair, manifeste, explicite de la Russie, disant « je ne veux pas que l'Ukraine soit dans l'OTAN », fait que toute une série de positionnements sont à revoir et que ça explique le réveil des populations, population serbe, population serbe du Kosovo. Donc j'insiste, le Kosovo n'est pas un État reconnu, il y a de moins en moins d'États qui le reconnaissent. Simplement, ce qu'il faut savoir, et je conclurai là-dessus, c'est que les États-Unis ne perdent pas leur temps, puisque le Kosovo est encore sous administration, sous protection de l'ONU. Hein, bon. Ça vaut ce que ça vaut, mais ça n'empêche pas les exactions à différents moments. Mais le Kosovo permet, dans les systèmes d'occupation multi-États, multinationaux qui sont mis en place pour contrôler, soi-disant protéger la population et éviter les exactions contre les Serbes, en gros 10% de la population du Kosovo est serbe encore dans la partie nord, ça permet aux États-Unis de s'être découpés dans la partie sud-ouest du Kosovo, une zone à eux, c'est-à-dire on a une espèce de 52e État des États-Unis sur le territoire de l'ex-Yougoslavie qui s'appelle Camp Bondsteel. C'est un camp militaire des États-Unis, c'est le plus gros d'Europe, il est permanent, tout est organisé, la vie quotidienne, les airs pour les hélicoptères, l'entraînement, les distractions, etc. Le périmètre de ce camp, le périmètre, donc les barrières qui l'entoure, c'est 14 kilomètres, ça vous donne une idée de la chose. On a donc au Kosovo, dans la partie américaine du Kosovo, parce qu'il faut l'appeler comme ça, le plus grand camp militaire permanent des États-Unis sur le continent européen. Alors quand on vous dit, parce qu'on a beaucoup dit ça, à propos de l'opération spéciale de la Russie en Ukraine, quand on vous dit que la guerre en Ukraine, c'est la première guerre qu'il y a en Europe depuis 1945, ben c'est pas vrai, c'est simplement une énorme farce, mais une triste farce, c'est-à-dire c'est un énorme mensonge, mais là aussi, on est dans la fabrication par les agences de relations publiques. Il a été décidé de nous mettre dans la tête que depuis 1945, l'Europe était en paix. Non, c'est pas vrai. Non, l'Europe a d'abord mené des guerres en dehors du continent européen, et elle a continué, hein. Je pense à la Libye, je pense à la Syrie, etc., avec l'implication de la France. Les guerres coloniales, elle les a continuées, et sur le le continent européen même, les puissances européennes, Allemagne et les autres puissances européennes ont suivi, ont mené la guerre contre un peuple européen, qui est le peuple yougoslave. C'est ça la leçon que je voulais tirer devant vous, en m'excusant un peu d'avoir pas pu aborder tous les aspects de cette énorme question, mais pour bien faire comprendre que nous devons nous laver la tête nous-mêmes, parce que d'autres se chargent de nous la souiller avec des récits totalement faux, totalement fabriqués, avec des gens dont le métier, il y a aujourd'hui des gens dont le métier est de vous mettre des idées fausses dans la tête. Bon. Alors on a appelé ça le lavage de cerveau, le bourrage de crâne, etc. C'est arrivé à un niveau de sophistication extrêmement élevé, donc il faut seulement que nous prenions du recul pour prendre le temps de lire, si jamais vous avez le livre de Jacques Merlino, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, mais son titre résume bien lui-même. Il est impossible aujourd'hui pour un journaliste, c'était quand même un directeur de France Inter, c'était pas rien, c'était pas un petit journaleux de province. Non, on lui a dit de se taire et on l'a rétrogradé. Bon, donc ça c'est une leçon très très importante, qui vaut aujourd'hui plus que jamais. C'est ça que je voulais essayer de vous faire partager et je vous remercie de votre attention. Bonne soirée, merci Sidi, à bientôt.